Bonjour Mélanie Chalandon. Ce soir, nous allons faire un tour sur une place qui, depuis des mois, occupe l'imaginaire parisien. Clémence Gros, bien souvent en attendant le bus 74, pose son regard sur la statue. Un jour, elle s'est permis, comme elle l'écrit, une pensée philosophique du matin. Ce monument, se dit-elle, est un symbole de l'individu ou du citoyen de cette République. La République est ici une femme de bronze, comme un phare au centre de la place, vers lequel convergent peu à peu les passants, les skateurs et autres cyclistes, toutes les classes de la société mélangées et rassemblées certains jours dans leurs combats et autres revendications politiques et sociales.
Si on comprend bien, Irène, c'est à une écoute de la place de la République que Sur les Docks nous convie aujourd'hui.
Oui, Mélanie, nous sommes donc invités à partager des discussions avec les passants, avec deux architectes, Géraldine Texier-Rideau et Antoine Vigier-Colère, Nicolas Humbert, restaurateur des monuments de Paris, Marie-Jo, riveraine, Mamadou Bama, agent de nettoyage de la ville de Paris et couturier, ainsi que Patrice, ermite urbain.
Là, on est rue du Faubourg du Temple et on passe à côté du Gibus, à gauche.
Donc là, on fait
le tour de la fameuse place. C'est la première fois que je viens en camionnette, ça se fête. Tu veux que je tourne à droite ou à gauche?
À gauche.
Donc là, on est pile poil sur la place même, avec à gauche ceux qui sont debout, et puis à droite, ceux qui sont assis au troquet là-bas.
Et quel temps fait-il?
Ah, là il fait un temps radieux, il pleut. Oh, doux bruit de la pluie, par terre et sur les toits. Donc là c'est le doux bruit de la pluie dans ma camionnette. J'adore parce que quand le soir je dors dans ma camionnette, quand il y a une pluie comme ça, en fait ça fait des petits bruits sur la toiture. Et c'est là que je passe les meilleures nuits en fait.
Place de la République, Paris. Clémence Gros et Julie Béressy.
La Seine est une place ouverte dans une lumière claire. Pour commencer, il y en a un qui s'enfuit rapidement. Ensuite, venu de la direction opposée, un second. Ensuite, deux, se croisant, chacun suivi à courte, invariable distance d'un troisième et d'un quatrième dans la diagonale. Eux non plus ne s'installent pas sur la place, mais se disséminent, la quittent, sont déjà de retour. Et déjà, ceux de devant, celui du milieu de la place, celui tout au fond, ont redisparu. Tandis que défile latéralement sur un châssis mobile une statue fixée à la verticale, et de même, suivant lui aussi un trajet latéral, passe un individu, se bouchant les oreilles au son flûté des sirènes, venues de droite et de gauche, qui enflent et devient une alarme glapissante. Aussitôt interrompue.
Merci madame, c'est gentil, c'est super gentil. Merci monsieur.
Je veux manger de la banane. J'ai soif, je veux boire du lait coco.
Et si la place était la place de la République à Paris? République, place 2. Répu quoi? Elle sera trajectoire, histoire grandes et petites, scène à ciel ouvert, le tout sous la pluie, une pluie comme un rideau de théâtre. Oui, commençons par là. Ouvrir la place de la République, raconter son début de quand elle s'appelait place du Château d'Eau. Puis la prendre cette place en rassemblement et revendication. Là, c'est République. Lui tourner autour pour s'y recueillir aussi, s'y attarder, être à ses pieds, attendre une histoire. Hier, aujourd'hui ou demain, du jour à la nuit et l'inverse, y ajouter ses pas au son assourdissant des boulevards, sirènes, haut-parleurs, voitures et motos, cris et rires, touristes, passantes et passants, toi, moi, nous, traversée de chers fantômes. Vous la présentez, en somme, comme une sœur que l'on aime et parfois déteste, mais qui, toujours, fera partie de vous. Place de la République, place à prendre, place à défendre, place à rêver, place à vivre, place à traverser, place à se faire, place à écouter. 3,4 hectares pour écrire un mouvement, raconter les allées-venues, habiter le paysage sonore, oui, d'une place publique. Enfonce-toi dans l'inconnu qui creuse, oblige-toi à tournoyer, disait René Char. Allons-y, au son des vivas alentours, aux échos de mes amis oreilles rencontrées là sur cette place et des autres qui la traverse.
Nous, on a imaginé la place pour que ce soit une scène ouverte. C'est-à-dire que ce soit un espace qu'on puisse s'approprier. Et avec une appropriation sous toutes ses formes.
Antoine Vigé-Coller, architecte.
Nous, on est très attachés à l'idée que cet espace reste disponible. Que ça reste un espace démocratique. Après, ça veut évidemment dire qu'avec des occupations aussi diverses soient-elles, il y ait des dégradations, il y ait des tags, il y ait un certain nombre d'événements. L'espace public est fait de ça. Ce qui est important, c'est qu'on en prenne soin de la place. Vous voyez, aujourd'hui, la place a été nettoyée, le sol est propre, etc. Donc, c'est la vie d'un espace public. Il faut faire avec ça. Vous voyez, si vous prenez un espace public très classique, le boulevard haussmannien, par exemple. Le boulevard haussmannien, c'est plusieurs choses en même temps. C'est un grand trottoir, c'est un commerce en pied d'immeuble, c'est un banc et un candélabre, c'est l'architecture d'un immeuble. Et tout ça est pensé ensemble. Je crois qu'on peut se dire que tous les espaces publics doivent pouvoir traiter de plusieurs choses à la fois et doivent pouvoir s'adresser à plusieurs types d'occupations, à plusieurs types de publics. De ce point de vue-là, c'est vrai que sur les grandes places parisiennes, il y a encore beaucoup d'espace qui est réservé à la circulation et autour desquels on pourrait imaginer d'autres formes d'appropriation. La place de la République a des conditions très particulières. C'est le toit du métro, il y a énormément de flux. Il y a la symbolique de ce qu'a toujours été la place comme espace de revendication populaire. Il y a la puissance symbolique de la statue. Il y a le fait qu'on soit entre trois arrondissements dont les sociologies sont particulières aussi. Troisième, le dixième, le onzième. Donc tout ça crée un environnement qui est très particulier, qui fait que cet espace-là et ses usages seront forcément caractérisés d'une certaine manière. La question, elle est bien celle d'équilibrer tout ça, de travailler, et de travailler à partir de ce que sont les espaces, de la configuration des espaces.
En 1811, Louis-Simon Girard implante une fontaine qui va servir à approvisionner tout le quartier. Première fontaine du Château d'Eau qui va lui donner son nom.
Géraldine Texier-Rideau. Docteur en histoire urbaine et architecte.
Et qui va finalement former un espèce de point de référence qui va devenir aussi un lieu de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on se rejoint autour de cette borne fontaine. Pourquoi ? Parce que à proximité, il y a un grand nombre de théâtres, de cafés, tout à côté de ce qu'on appelle le boulevard du Temple ou le boulevard du Crime, où il y a beaucoup d'activités, un foisonnement dans l'espace public. Et effectivement, ça devient un lieu de rassemblement avant d'aller au théâtre ou de déambuler, puisque effectivement, c'est sur ces grands boulevards de la rive droite, qui est l'espace public parisien par excellence, le boulevard, qu'on flâne, qu'on déambule, qu'on se perd dans la ville.
Entrez ! La vérité est ici ! Entrez ! Venez la voir ! Et quand vous l'aurez vue, vous y pensez le jour ! Vous en rêverez !
Et cette première fontaine de Girard va être entièrement démontée et remontée devant les anciens abattoirs de la Villette pour laisser place à une nouvelle fontaine qui, effectivement, dans le temps de 1853-1867, va être donc redéfini et Daviau, Gabriel Daviau, qui est l'architecte effectivement de l'idéalité haussmannienne, c'est-à-dire que c'est lui qui prend en charge l'architecture, va donc concevoir cette nouvelle place qui va changer de forme, un rectangle de grande dimension et au sein duquel il va placer donc une nouvelle fontaine. Une nouvelle fontaine qui est dans l'axe du boulevard Voltaire et on va décider d'amplifier encore cette place. Donc le rectangle va prendre de la largeur pour aboutir à la place qu'on connaît aujourd'hui, hein, les dimensions de 280 mètres par 120 mètres. Quel est l'objectif de construire une place de cette dimension à cet endroit ? L'enjeu, c'est de rééquilibrer la carte parisienne. Il n'y a pas de grand espace public de représentation dans l'Est parisien. L'Est parisien industrieux, l'Ouest parisien monumental. Donc, vous voyez là encore cet effet de miroir avec une place de grande dimension qu'on peut qualifier de place publique moderne pour l'époque et qui devait justement montrer que les Parisiens aussi pouvaient avoir un espace de représentation.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby. Mama's gone away and your dad is gonna say he didn't leave nobody but the baby.
La grande place ouverte dans sa claire lumière et rien d'autre. À pas de géant du fond de l'espace, en toute hâte arrive le jeune décideur. Accessoires convenus, s'arrête au beau milieu, fourrage dans la poche du costume, tâte les autres poches, les vide dans sa main et ensuite sur sa mallette, pour finir par ranger une chose après l'autre, avec cérémonie, soin, méticulosité. Son mouchoir au coloris criard, les dés, une boîte de cirage, dont il tire un son de tam-tam, une coquille Saint-Jacques, la calculette, l'assommoir, la pomme, le bas de femme, le cœur en pain d'épices, les lacets, la liasse de billets en désordre, l'accordéon des cartes de crédit, la lampe de spéléologue.
Nous, on se situe en bas de la statue, on essaye de se couvrir de la pluie, mais on reste toujours en dessous de la statue. C'est un QG, c'est un lieu de rassemblement.
Si la police ne vient pas nous virer aussi entre-temps, vous voyez.
Ouais, on se fait virer tout le temps aussi.
On se fait tous les jours, tous les matins, normalement, on se fait. Il y a au moins allez, 3, 4, 5 ou... T'as même flic qui vient et nous vire tous les matins, pratiquement.
5h du matin.
5h30, 6h.
De manière assez agressive.
Pascal, il est mort. On l'a retrouvé comme ça, froid. Qui aime poser des cierges pour lui si c'est pas les gens de la rue? Qui en a posé?
Qu'est-ce qui s'est passé là, exactement?
Un monsieur qui est décédé il y a quelques mois en arrière. Et tout le monde est passé devant. Il n'y a que son binôme qui s'est inquiété. Qui a posé des cierges pour lui? Personne, madame. Nous, tous les jours, on dort sur les bancs. À la rigueur, je veux pas tes sous, mais s'il te plaît, j'ai faim. Voilà, maintenant on est regardé comme des gens parce qu'on est de l'autre côté de la barrière, tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire que quoi? Nous on est de l'autre côté de la barrière, ça veut dire qu'on n'est plus comme vous? Parce que dans tous les cas, on est dans un état qui est humain et qui est le même que le vôtre. Et ça c'est un état et c'est un fait, soyez homme ou femme, c'est l'humanité, et ben on est pareil. Et encore regardez, vous pouvez constater qu'on fait partie de ceux qui essaient de garder un minimum de dignité, ne serait-ce que dans notre hygiène. Et dans notre hygiène, je parle pas que de l'hygiène. Du corps, je vous parle de l'hygiène ici.
Et voilà, il y a trop de misère à Paris, il y a trop d'SDF à Paris, il y a plus de SDF qu'en 55. C'est abusé. Mais ils nous auront pas cette fois-ci. Ils nous ont promis la lune, on n'a même pas vu une étoile.
Ici, sa vie. C'est la vie. Voilà pourquoi nous y sommes restés depuis 45 ans. Parce qu'on a trouvé un appartement agréable, place de la République.
Marie-Jo, riveraine.
Parce que c'est un quartier qui est historique. Et toutes les vieilles pierres, moi, Jean, j'aime ça. Mon mari, pareil. Nous aimons ce quartier qui est le Marais. Hein, c'est limitrophe au Marais, mais c'est déjà le Marais. Et ce sont des vieilles pierres, c'est de l'histoire, ça vit. C'est pas du béton. En plus, il y a un quartier populaire, c'est vrai. Et ce quartier populaire, moi, j'adore. C'est un village, parce que les gens vous connaissent depuis si longtemps, vous appellent, vous téléphonent, on communique, on n'est pas un numéro. Moi, je ne pourrais pas vivre dans le 16e arrondissement et avoir des gens uniformes. République a toujours été un endroit où il s'est passé des choses, mais il s'est passé des choses de façon... gentille. Il y a eu toujours des manifestations. Ça a toujours été intéressant. Moi, j'aime bien voir des gens qui ne sont pas d'accord. La libre expression, elle est pour tout le monde. Bon, maintenant que ça dégénère, c'est un autre problème. Mais on nous en 45 ans, j'ai eu le loisir d'en voir beaucoup. Donc, tout se passe. C'est vrai, République Bastille, ça se passe par ici. On ne s'ennuie jamais.
Après, tard le soir, dans les rues de Paris ou de Paname, j'ai dû hériter de son tempérament de flamme guerrière dans ma Quechua ou sur ma Yama. J'arrête pas de dire « y'a air » quand je marche avec les frères. Le début de la fin de l'Empire pour ces vampires, je vous le dis, le meilleur est à venir. Tu ne m'as pas vu débarquer quand je vais arriver dans le game, tu ne vas pas te relever. Je te le dis clairement, j'ai trop d'ambition, de bonnes protections, une vraie famille, Place République, le slogan, c'est que du luxe, devenu que du putain de luxe, j'arrête pas. La rage de devenir saint moine, quoi qu'il en soit, je reste qu'une môme qui met tout son cœur pour devenir number one, quitte à me faire des ennemis. Le chemin vers lui en va, sachez juste mon blaze, moi c'est no, no, avec le W pour le style ou le poker. J'arrive pas pour frimer, mais pour tout niquer.
En 1879, la ville de Paris décide de lancer un concours pour implanter une statue dédiée à la République. Au début, il n'est pas question de la place du Château d'Eau. Il y a un grand nombre d'espaces qui sont pressentis. Et plutôt, toujours, là encore, des places de l'Ouest parisien ou encore la place de l'Hôtel de Ville, au centre. Et finalement, eh bien, on a décidé que ce serait là que trônerait la statue des frères Maurice. Les frères Maurice qui vont gagner le concours. Charles, l'architecte, dessine le piédestal et Léopold, qui est sculpteur et qui dessine donc la statue. Du coup, la fontaine de Daviau ne peut pas coexister avec cette statue et elle sera d'ailleurs démontée et replacée sur la place Daumesnil qui est devenue la place Félix Éboué. L'implantation de la statue est un moment tout à fait important puisque elle donne à la place un statut là symbolique et politique. La statue est toujours dans l'axe du boulevard Voltaire. Elle regarde vers le centre de Paris. C'est une statue qui est assez figée, qui doit fixer un cap, qui marque une forme de sérénité. Et c'est un peu le contraire de la statue qui va être réalisée exactement à l'occasion de ce concours, donc au même moment, par Jules Dalou. Son triomphe de la République, qui est beaucoup plus revendicative et qui va de l'avant et qui va être repéré par la ville et qui va l'acheter et qui l'implantera quelques années plus tard, place de la Nation.
Skateboarder sinuant autour d'un objet imaginaire, puis d'un coup sautant de son truc qu'il a emporté sous le bras dans une sorte de nonchalance contemplative.
À partir de l'implantation de la statue de la République, la place acquiert une dimension plus symbolique, voire politique. On voit dès 1883, qui est la date de son inauguration, on voit des rassemblements étudiants qui collent des petites affichettes sur la statue. Et puis, voilà, il va y avoir une forme de montée en puissance de ces rassemblements à caractère plus revendicatif, mais dans une redéfinition de l'Est parisien. Et donc, c'est pas seulement la place de la République, mais c'est la place de la République prise dans des parcours de manifestation avec la place de la Bastille et de la Nation. Et le point fort de ces rassemblements et de ces manifestations, c'est les années 30 et le Front populaire.
Les patrons ont violé systématiquement les lois, la liberté du travail, préférant faire rentrer à coups de millions.
Liberté, c'est pour déjà d'être libre, déjà la liberté d'expression. Par exemple, le sexisme, eh ben, c'est pas libre, enfin, que les femmes eh ben, soient libérées de ça. Égalité, c'est que les choses soient égales, que les riches, par exemple, ils donnent plus, voilà, pour que ça soit plus égal. Et fraternité, c'est être fraternel, de traiter les gens comme des gens de leur famille. Cette statue, c'est la statue où les gens y mettent des choses pour leur dire qu'il faut être plus... Parce que en fait, maintenant, les devises de la France, elles se sont un peu... Les gens, eh ben, ils s'en rendent plus trop compte, en fait, de cette devise. Liberté, égalité, fraternité.
Donc là, on est face au monument.
De haut en bas, Marianne tenant le rameau d'olivier, donc le signe de paix.
Nicolas Imbert, restaurateur des monuments patrimoniaux.
Elle s'appuie de son bras gauche sur une stèle où est inscrit « Droit de l'homme ». Et elle tient, alors caché à l'arrière, le glaive. Ah non, il est à sa ceinture, on le voit au-dessus, le glaive. Donc elle a un symbole de paix dans la main, mais le glaive pour se défendre si on vient la contester. Elle se tient donc sur un socle en pierre, où on voit l'écusson de la ville de Paris, avec la nef et la devise, « Fluctuat nec mergitur ». À droite et à gauche sont figurées trois sculptures représentant la liberté, l'égalité et la fraternité. Et en partie basse du socle, on a 12 reliefs qui représentent les événements importants de la République. Au pied du monument, on a le lion représentant le peuple, défendant l'urne du suffrage universel, et qui se tient devant un bouclier où est inscrit 1789, la date de la Révolution.
Et là, en fait, on remarque qu'elle est complètement graffitée.
Alors, ce monument a toujours été un lieu de commémoration ou de revendication, de départ de manifestation ou d'arrivée de manifestation. Donc, c'est un monument qui a régulièrement été, justement, graffité avec des slogans politiques, des slogans sociaux, des slogans... Et là, depuis 2015, des slogans à la liberté d'expression, à la mémoire des victimes des attentats de janvier et de novembre. C'est devenu un lieu de mémoire, un véritable mémorial aux victimes des attentats et à la liberté d'expression. Et on a vu fleurir depuis moins d'un an énormément de graffitis sur toute la surface, essentiellement concentrés dans les parties les plus accessibles, donc sur le tambour inférieur, mais également dans les parties un peu supérieures, là où on peut, en escaladant audacieusement les figures en pierre, accéder. Alors évidemment, cet aspect mémoriel, n'est pas tout à fait compatible avec la conservation d'un monument patrimonial. Les éléments patrimoniaux, même s'ils sont urbains, ont un statut d'œuvre d'art. Et ce statut leur confère une certaine sacralité. On conçoit assez mal qu'une œuvre d'art, qu'elle soit évidemment a fortiori dans un musée, mais même en voirie, dans l'espace urbain, public, soit recouverte de graffitis. Donc évidemment, se pose la question récurrente, régulière, de l'entretien, donc du dégraffitage du monument. J'ai été appelé à plusieurs reprises à retirer un certain nombre de graffitis, plus ou moins en urgence. Je me souviens des manifestations organisées par ce qu'on a appelé les Conti, la manifestation de Continental au moment de la fermeture des usines Conti, où le lion avait été entièrement recouvert d'autocollants orange, du type de ceux qui sont posés sur les pneus neufs, avec des choses extrêmement difficiles à retirer. On avait eu aussi le célèbre slogan de notre ancien président, un casse-toi pauvre con, qui avait été repris en gros sur le fût, sur le socle, voilà, qu'il a fallu retirer extrêmement rapidement. Quelques petites anecdotes, mais c'est vrai que je suis toujours partagé entre mon sentiment de citoyen et mon sentiment de restaurateur. Devant l'horreur absolue de ce lion entièrement recouvert de stickers et cette fascination de cette intervention limite art contemporain, une espèce de schizophrénie du restaurateur citoyen.
La place vide dans la lumière claire. Une seule feuille tombe de très haut, telle une feuille d'été. Un coup de feu et son écho, encore et encore. Ailleurs, pendant ce temps, s'en va une jeune femme qui, chemin faisant, sort d'une pochette un paquet de photos. Les examine une à une, sourit d'un grand sourire, toujours plongée dans l'une de ces images, poursuit sa route jusqu'à ce que, croisant un passant indéfinissable qui sourit avec elle, son visage subitement se referme. Mais l'autre prend le relais, transporte le sourire sur la place.
Et alors Nicolas Humbert, comment est-ce qu'on monte pour nettoyer cette statue ?
Si aujourd'hui on doit dégraffiter, dans les parties basses, le tambour inférieur qui culmine à 4 mètres je crois, ça reste très accessible avec un système d'échafaudage simple. Dans les parties plus élevées, on n'ira évidemment pas escalader les sculptures comme le font les gens qui posent les graffitis. On utilisera des nacelles qui nous permettront d'être à hauteur et de travailler en sécurité et dans les règles de sécurité qui nous sont imposées et qui sont souhaitables.
Là, comment est-ce qu'on pourrait faire du coup pour préserver cette statue ?
C'est un vrai problème. Bien sûr, il faut la préserver. Ça me semble évident. Mais je crois qu'il faut faire aussi preuve de pragmatisme. Je ne crois pas qu'en dégraffitant le monument de la place de la République, on va susciter chez les gens l'idée que ah ben non, c'est tout propre et que du coup, il faut le respecter en tant qu'objet patrimonial et cesser de le graffiter. Je crois que maintenant, l'idée que c'est un lieu de mémoire est profondément ancré. Je crois qu'on est aussi dans un moment de contestation sociale assez fort et que le lion représentant le peuple, défendant l'urne du suffrage universel, a aussi un sens. Ça me semble vain aujourd'hui de tenter d'aller retirer ces graffitis. Ils reviendront aussi vite qu'on les a retirés, même peut-être plus vite. On pourrait trouver peut-être une demi-mesure en allant nettoyer la partie supérieure du fût et en gardant le tambour comme lieu d'expression, sachant que là aussi, vraisemblablement, les graffitis reviendraient assez vite. Alors c'est moins accessible, donc on peut imaginer que les gens se contenteraient dans un premier temps de rester en bas, mais il y a toujours quelqu'un qui est plus malin que les autres et qui aime bien monter toujours plus haut. Donc comme il n'est pas question de mettre des grilles ou de creuser des fossés profonds remplis d'eau et de crocodiles autour du monument, il faut pour le moment, à mon avis, attendre.
Et alors, cette statue, elle est creuse ?
Tous les éléments en bronze sont creux. La sculpture de Marianne a une trappe à ses pieds, totalement inaccessible et bien défendue. Il y a une clé. Une clé, mais qui permet effectivement d'aller inspecter les éléments structurels à l'intérieur. Et cette trappe permet d'aller inspecter cette armature.
Et qu'est-ce qu'on y voit ? C'est profond ? Ça va jusqu'où ?
Alors, la sculpture donc, est entièrement vide. Donc, quand on est à ses pieds, on a l'impression d'être dans une grande cathédrale de bronze. Un peu étriqué, ceci étant dit, mais c'est assez impressionnant. Et le socle est creux et le vide descend jusque dans les sous-sols, probablement au niveau des égouts. C'est assez, assez spectaculaire.
On y va ?
On y va. J'ai oublié la clé.
Les gens, ils font pas attention ici. Quand on nettoie, après, ils viennent nous saluer. C'est ça qu'il faut qu'on les suit tout le temps, tout le temps. Heureusement qu'il pleut aujourd'hui, il n'y a personne là. Sinon, s'il ne pleut pas, il y a du monde ici. Hein. À midi, comme ça, les gens, tout le monde, il vient manger. Quand ils mangent, et puis, comme il y a caressé, il y a un quick, tout là, ils mangent, après, ils laissent tout ici, ils s'en vont. Il faut que nous, on soit là pour les ramasser. On ne peut pas s'arrêter, parce que quand c'est sale, il y a les touristes qui viennent aussi. Il faut que nous, on fasse le travail. On est là pour ça. Tout le temps, il faut qu'on fasse ici propre. Hein, parce que Paris, c'est plus beau du monde, c'est Paris. Hein. Oui, moi, je suis de la Côte d'Ivoire, je sais. Tout qui me plaît ici. Les monuments, les statues, tout. C'est les rêves. Tous les jours, je suis comme un enfant. Devant une statue, là, c'est chacun voit des choses. Hein. Parce que mes travaux avant, moi j'étais couturier. Tu vois les branches là, toi tu penses quoi? Ça fait fleur, ça fait partie des images des femmes. Tu vois, elle est présente bien. Tu vois, les drapés comme ça, là, tu vois, non?
Oui.
Ça fait couture. Les vraies coutures, c'est ça, là. Quand tu es drapé comme ça, en dehors, robe de mariée avec ses fleurs, ça fait magnifique. Ça fait un peu Chanel ou bien Gaultier. Ah oui. Tu vois, soulever la main comme ça, une femme qui soulève sa main comme ça, elle veut liberté. On voit, la place est magnifique. Les arbres, ils sont des fleurs, des feuilles, tout. La lumière est bien, et puis tout est bien. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait tomber papier là-bas, tu vois? Tu vois là-bas, là?
Ouais.
Faut que, quand il y a le blanc comme ça, ça se voit tout de suite. Donc il faut que je ramasse ça. Quand on voit ça, on ramasse ça. Tout ce que ça se voit loin, il faut ramasser ça.
Place de la République, place de la République, place de la République.
Une beauté, de nouveau, n'importe laquelle. D'abord seulement visible de dos. Soudain, elle se retourne vers moi. À nouveau une beauté, suivie d'une autre, le pas plus rapide, qui soudain se met à courir, assène un violent coup sur le crâne à celle qui la précède, et déjà s'est enfuie par une rue latérale. La première qui se tient la tête, on est resté couette.
Place de la République.
Il y a eu un très gros travail qu'on a fait à l'agence avec mon associé Pierre-Alain Trévelot, sur la façon de travailler sur le sol de cette place. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez remarquer aujourd'hui, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est le plus frappant d'ailleurs pour les gens qui ont redécouvert la place, c'est qu'avant, la spatialité de cette place était très fuyante. En fait, il y a beaucoup de relief sur cette place. Il y a entre l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire la position médiane de la place, et le pied des façades, il y a à peu près un mètre d'écart. Et dans sa configuration originale, la place était bombée, elle avait un profil bombé sur son grand côté, qui faisait que quand vous étiez d'un côté de la place, vous n'aviez jamais la perception de l'ensemble. Donc vous étiez toujours dans un endroit qui était en pente, qui était fuyant, et sur lequel on avait assez peu de repères, on avait peu de lieux stables en fait. Ce qui était d'ailleurs assez contradictoire avec ce que vous voyez là, c'est-à-dire l'organisation des formes autour de la place, des bâtiments, qui au contraire sont des bâtiments haussmanniens, sont des bâtiments en pierre, ont une composition symétrique et régulière, donc qui forment une sorte de très grande pièce capable de fabriquer une sorte d'intérieur de théâtre urbain. Mais le sol n'était pas du tout en cohérence avec cette possibilité de retrouver un lieu de séjour. Donc on a fait un travail dont la complexité ne se voit pas forcément, parce qu'en réalité on voit ce grand sol plan, mais l'espace public est à plat. C'est-à-dire que tout est réglé, ce qu'on appelle le nivellement, le sol de la place, est réglé sur le principe d'une mise à plat qui permet d'en faire une scène, une plateforme disponible pour qu'on puisse l'occuper.
Je vais enfoncer une porte ouverte. Depuis tout à l'heure, on se demande comment on va s'organiser, comment on va rester, comment on va se fédérer, comment on va... Mais en venant tous les jours. Tout simplement. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas venir tous les jours. Mais chacun peut venir un bout de jour, un autre jour, etc. Et à un moment donné, effectivement, c'est parce que cette place sera tout le temps prise pendant toute la journée et une partie de la nuit certainement, parce qu'elle sera prise au quotidien. Et comme tu dis que de ce lieu, on ira ailleurs et on reviendra, qu'il y aura de plus en plus de monde et qu'il y aura de plus en plus d'organisation qui se fera. Mais la question à se poser, c'est simplement, est-ce que je peux venir tous les jours ?
On est sur une aire piétonne, c'est-à-dire où le piéton est prioritaire, une aire piétonne qui fait 2 hectares. C'est l'endroit le plus grand à Paris, où vous trouvez ça d'ailleurs, c'est la plus grande place piétonne de Paris. Mais où vous avez une voie où circulent les bus, les taxis, les piétons, les vélos, tout ce que vous voulez, et où le piéton est prioritaire. C'était un vrai pari, il n'y a pas de potelet, donc ce qui est là aussi est un vrai défi. Il n'y a pas de stationnement sauvage, vous le voyez. Et donc, on est sur un endroit où la rencontre est possible. Et ça, ça a été vraiment, je pense, un vrai changement d'état d'esprit, c'est-à-dire de pouvoir sortir d'une logique fonctionnelle de l'espace public où chacun est dans sa ligne, chacun doit s'inscrire dans un certain type d'usage et qui souvent génère du conflit, de la confrontation parce que la place est réservée aux uns et pas aux autres. Là, on a plutôt travaillé sur un espace qui fait le pari que la rencontre est possible. Si vous prenez l'espace de la place, à l'origine, 70% de la surface était dédiée à la circulation automobile. On avait un rapport de 70-30 entre la place de la voiture et la place du piéton. Aujourd'hui, ce rapport-là, c'est inversé. Vous avez 70% de l'espace qui est strictement piéton et 30% qui sert à la circulation.
Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía. Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós.
Avant, on pouvait, si vous voulez, il y avait des jardins. Vous aviez deux jardins avec deux fontaines et la place de la République au milieu. Et en fait, les voitures tournaient autour de la place de la statue de la place de la République. La circulation n'était pas du tout la même et empêchait justement ces rassemblements. Donc, les gens ne pouvaient pas stagner. Quand il y avait un départ de manif, ils partaient de la place République, mais de la rue. Vous voyez, il n'était pas sur un terre-plein qui demande qu'à accueillir des tentes, qui demande qu'à accueillir des gens qui n'ont rien à y faire. Quand vous avez des jeunes de 20-25 ans qui font du skate, parce que ce n'est pas des gamins, hein, c'est des gens bien mûrs, des personnes d'un certain âge ne peuvent pas aller s'asseoir sur un banc place de la République parce que si elles se reçoivent, et c'est déjà arrivé, des skates dans les jambes, elles vont à l'hôpital. Bon, après, vous avez les vélos qui passent, quelquefois une moto, pourquoi pas. Après, vous avez des groupes qui sont là, qui chantent, qui dansent, qui font... Non, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour les gens âgés qui ont envie d'aller se prélasser sur un banc. Il en faut pour les enfants. Bon, ils ont mis une espèce de l'eau devant. Alors, les gens se baignent les pieds. À votre avis, qui se lave les pieds? Vous? Moi? Nous? Celui qui a besoin de se laver les pieds? Ils ont raison. Ceci dit, ils ont raison, mais vous n'avez pas tellement envie d'y aller mettre vos marmots après. Et puis, le dallage. La place de la République, le jour de l'inauguration, une semaine après, il y a eu un gros orage. Cet orage, ils n'avaient pas prévu des bouches d'évacuation suffisamment fortes, suffisamment grandes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'eau s'est engouffrée là-dedans et tout est retombé dans le métro. Donc, le métro, il y avait des cascades qui descendaient dans les escaliers mécaniques. Ça a été mal conçu parce qu'il y a des fuites. Il y a des fuites qui vont dans le métro. Le métro venait d'être fait, donc ils ont eu des procès, des trucs, des machins. Enfin, ça, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Ce que je veux dire, c'est que tout a été mal fait. Que moi, il y a 3 ans déjà, je m'y suis cassé un bras, moi, à place de la Répu, hein, parce que il y avait des trous partout, c'était même au niveau sécuritaire durant les travaux, eh bien, c'était même ça, c'était mal fait. Donc, il y a des gens qui sont tombés, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que rien n'a été conçu pour les riverains, tout a été conçu pour les manifestants. Parce que cette place, ça va dégénérer. Et tout est comme ça. Alors vous comprenez qu'à un moment donné, on n'en peut plus. On n'en peut plus parce que moi j'ai connu cette place, cet endroit qui est près du Cercle d'Hiver, qui est formidable parce que c'est vivant, je vous l'ai dit en plus. C'est nuancé, on connaît le boucher, le charcutier. C'est un village comme il peut y avoir à Montorgueil. C'était ça la place de la République. Et c'est devenu maintenant du n'importe quoi. Ce n'est plus un quartier, c'est la cour des miracles, c'est un quartier à l'abandon, c'est un quartier avec un climat insurrectionnel, c'est invivable.
Les années passent pour
ton... Ça glisse beaucoup et il y a des endroits qui sont waxés. La wax, c'est un mélange entre du savon, de l'huile et d'autres éléments, et de la cire, c'est ça, qui servent à faire glisser des curbs, le sol, ce qu'on veut, quoi. Et du coup, on l'étale, on en fait passer sur le sol, sur le curb, et puis ça glisse beaucoup mieux. Et puis il y a certains endroits sur cette place qui sont waxés justement.
Vous venez souvent place de la République à Paris pour faire du skateboard ?
Moi j'habite juste à côté, donc à chaque fois que je fais une session presque j'y vais. Avant les vacances d'été dernier, on s'amusait, comme on n'était pas fort du tout, on savait même pas faire le ollie qui est le saut de base. On s'amusait à sauter par-dessus ça, le grand banc en bois, juste en roulant. Et puis je trouve que la place de la République, c'est beaucoup plus... Enfin, ça donne beaucoup plus envie de skater, alors que dans un skatepark, tout le monde est très très concentré sur ses figures. On s'engueule souvent parce que on se bloque, on tourne au mauvais moment et tout. Alors que là, à la place de la République, tout est cool, on peut parler, on peut arrêter de skater tout le temps, d'être hyper concentré. On est tranquille, c'est ça.
Vous n'êtes pas dérangé par les gens qui passent? Vous n'avez pas de problème?
Bah, ça arrive que le skatepark arrive sur les clochards, sur une dame, on se fait souvent gueuler. Je me suis même déjà fait poursuivre par des clochards, mais c'est rien.
Tu t'es fait poursuivre, c'est-à-dire?
J'étais tombée de mon skate, il était parti en roulant. Il avait foncé droit deux clochards, enfin je suis allée prendre mon skate, mais ensuite ils avaient un peu bu, ils étaient un peu... Ils ont commencé à me poursuivre, du coup je me suis enfuie en skate, je suis rentrée chez moi. Ça fait un peu peur sur le moment, mais...
Aujourd'hui, on parle beaucoup de la place de la République et on a l'impression que finalement, la place de la République apparaît aujourd'hui comme si elle n'avait pas eu une histoire longue. En réalité, effectivement, cette place, si elle est aussi investie aujourd'hui, c'est parce qu'elle a toujours été investie, elle a toujours été très fréquentée. C'est une place de très grande dimension, c'est une des plus grandes places parisiennes et même à l'échelle européenne. Donc c'est une place qui fonctionne et qui a été surinvestie, laissée dans l'ombre et qui aujourd'hui ressurgit. Les événements de 2015, qui sont évidemment exceptionnels, ont à nouveau braqué les projecteurs sur la place. En réalité, c'est une suite d'événements. Enfin, le principe même de l'espace public physique, c'est qu'il est à tous et à personne. Donc, oui, il peut y avoir des expériences menées de projets démocratiques, de libération de la parole, telle que l'a fait Nuit Debout. Et d'autres usages vont venir sur la place, et c'est le principe même, je crois, de l'espace public. Donc la place, c'est cette espèce de fond, ce bien commun de la ville, qui est à tous et à personne, qui permet à la fois des usages particuliers, l'individu sur la place au quotidien, les riverains du 11e arrondissement, 10e. Et puis, c'est en même temps une place, par ses très grandes dimensions et son emplacement stratégique, je dirais, sur le parcours des grands boulevards, eh bien, un espace de très grands rassemblements. Donc, elle fonctionne à différents temps. Elle fonctionne le jour et la nuit. Et aucun groupe ne prend la place pour lui-même. Voilà, il y a ces successions d'événements qui font vivre l'espace public aujourd'hui. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out.
Est-ce qu'on peut monter?
Ah oui. C'est tout mouillé, hein, je te préviens. bien, bienvenue chez moi.
Alors Patrice, bonjour.
Oui, bonjour Clémence.
On est où exactement?
On est rue du Faubourg du Temple, à 100 mètres de la place de la République.
Et pourquoi est-ce qu'on se gare ici alors?
Ben là, je me suis garé là parce que j'ai ma salle de bain qui est juste derrière là. Si tu fais 150 mètres, tu vas trouver le Club Med Gym. Et c'est ma salle de bain en fait. C'est là où je viens tous les jours.
Et donc la salle de bain est sur la place de la République en
oui,
fait.
Exactement. Et le matin, quand j'arrive à 7h, il y a à peu près une vingtaine d'hommes en vert qui balayent la place de la République. T'as des balayettes, t'as des camions, t'as toutes sortes de trucs qui sont tous en train de nettoyer la place de la République. Donc je rentre dans ma salle de bain à 7h30, quand je ressors à 9h ou 9h30, c'est tout propre, c'est tout nickel. Ils ont tout balayé.
Mais alors, comment est-ce qu'on décide d'être dans une salle de bain place de la République ?
Alors, au départ, je pensais au hammam, parce qu'il y avait un sauna aussi, parce qu'en hiver, il fait froid. Et donc, je me suis dit, ici, il y a un sauna, il y a un hammam ici, là, ici. D'ailleurs, c'est marqué, là, sauna, hammam. Et donc, je suis descendu ici, parce que j'étais persuadé que, bon, on pouvait aller au sauna, hammam, tranquille. Et quand j'ai vu les prix, c'était 3000 euros par an.
Ah oui.
Voilà. Et donc, là, j'étais cul par terre. Je me suis dit 3000 euros, c'est pas de mes moyens. Et quand j'ai regardé à droite, j'ai vu qu'il y avait un Club Med là. À l'époque, ce n'était pas Club Med, c'était Gymnase Club, je crois. Et donc, je suis allé par curiosité rentrer dedans. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un sauna dans ce truc. Et j'ai dit, mais c'est bien sûr. Et c'est comme ça que je me suis inscrit là-bas. Alors, au départ, c'était pas piéton, hein, la place de la République. Il y avait des bagnoles qui passaient devant ma salle de bain. Maintenant, devant ma salle de bain, c'est piéton.
Et ça fait longtemps que c'est ta salle de bain ?
Ça fait quelques années, ouais. Ça fait quelques années que je vais tous les jours dans ma salle de bain à Place de la République. C'est un sous-sol carré, 1500 mètres carrés, béton. Donc j'ai une grande salle de bain avec une piscine et un sauna. Et je m'y sens bien. Puis j'aime bien l'esprit qu'il y ait plein de gens qui viennent dans ma salle de bain.
Est-ce que c'est les... Tu croises des gens régulièrement,
oui.
Tu t'es fait des amis?
Non, je veux pas me faire d'amis dans ma salle de bain. C'est-à-dire que je connais plein de gens, on discute, on est genre, mais il y en a par exemple, ils y vont pour, tu vois, pour genre potiner, pour passer leur temps, pour D'ailleurs, c'est pas des gens qui viennent tous les jours, ça, c'est, mais moi j'estime que j'ai des choses à faire. Que c'est de la concentration. Donc je veux bien croiser des personnes, mais je veux pas. Donc le programme en fait il se résume en je me muscle mon cœur dans ma salle de bain. Parce que nos ancêtres en fait ils couraient pour échapper à un ours, donc ils avaient forcément le cœur musclé, donc par respect je muscle mon cœur. Après bon il y avait coupé du bois, alors maintenant on peut plus couper du bois, mais moi bon il y a donc là-bas des machines pour se muscler, donc je me muscle pour couper du bois, mais je ne coupe pas de bois. Et puis après je fais du stretching, c'est-à-dire que là c'est comme le chat qui s'étire le matin. Donc une fois que j'ai fait ça, je me suis bien étiré, donc j'ai vraiment l'impression d'être bien né quoi, enfin, d'être bien là où je suis. Donc à ce moment-là je peux sortir de ma salle de bain et puis tout s'est bien passé. C'est mon programme, tous les jours.
Et après, est-ce que tu passes sur la place de la République en sortant ?
Bah, en fait, la place de la République, c'est quelque chose que j'aime bien en arrivant. Parce que bon, le soleil se lève, c'est quelque chose qui. Puis il y a tous les bonhommes verts qui s'agitent. Après, c'est un peu la place de la République, elle est clean. Elle est, tu vois, elle est nettoyée. Donc, j'ai pas à y retourner, quoi. Moi j'aime bien le matin quand j'arrive parce que ça fait un peu bordel quoi. Donc, ça j'aime bien. D'abord la fontaine là, qui est toute taillée et qui est toute graffée. T'avais des espèces de bas-reliefs en relief et il y a des personnes qui ont peint des personnages. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis il y a aussi des lampadaires qui sont peints. Donc on voit que bon il y avait un pendu aussi qui était pendu pendant très longtemps. Enfin il y a plein de choses. C'est ça que j'aime bien. En fait, ça me fait penser un peu à comme si tout était possible, quoi. Tu vois, on peut faire ce qu'on veut et ça reste. C'est comme quand on trouve un squat et que petit à petit, chacun y met sa signature et puis ça prend une espèce de volume. Et puis t'as l'impression que t'as l'impression que t'es chez toi. Alors qu'avant, c'était un endroit qui était un peu stérile. Donc c'est ça que j'aime bien le matin en arrivant, parce que t'as l'impression qu'il s'est passé plein de trucs.
Cris de corbeau, aboiement de chien et en même temps un grondement. Une tempête a éclaté, bien au-dessus de la place. Tonnerre et crépitement. Pause. La place, la lumière, les contours, pause. La place claire, vide, dans sa lumière du souvenir, le bref instant du papillon ou de la phalène. Allez venue, Puis la place s'est obscurcie.
De la République, Paris, avec Géraldine Texier-Rideau, Antoine Vigé-Colère, Nicolas Humbert, Patrice, Marie-Jo, Mamadou Bama, Nono, les 100 logis de la place de la République, Lila, Thibault, Ilan et Alexandre. Merci à Guillemette, Luna, Damien, Sophie, et Laure, Alexandre, Lise-Marie, Bastien, Manon, Laurent, Alice, Nicolas, Nejma, Jean-François, Achour et toutes les oreilles de la place de la République à Paris. Piano et chant, Léopoldine H.H. Clarinette et lecture du texte de Peter Hanke, Vincent Bramoulet. Chant in situ, Louise Muller et Giuseppe De Ponte. Prise de son, Fabien Gosset. Mixage, Claire Levasseur. Attaché d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Clémence Gross, réalisé par Julie Béressi, pour Sur les Docs. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke.
17h55 sur France Culture, c'était Sur les Docks.